Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC. Grand plateau. Christophe Cessieux.
Salut à tous. Une semaine après sa démonstration dans le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel a sonné et frappé une deuxième fois ce dimanche à Roubaix en s'adjugeant le 121e Paris-Roubaix de l'histoire qui restera à ce jour comme le plus rapide. Oui, une nouvelle démonstration du jeune roi des classiques qui à 29 ans remporte son 6e monument et qui ne va sûrement pas s'arrêter en si bon chemin. Jusqu'où peut-il aller? Peut-il espérer pourquoi pas briller sur les Ardennaises de la même manière que sur les Flandriennes? On se posera la question. Un Van Der Poel surpuissant qui a fait ce qu'il a voulu en s'échappant à 60 km de l'arrivée. C'est l'un des plus longs raids victorieux de la reine des classiques, Van Der Poel, qui en plus de ses qualités possède également une équipe incroyable, qui n'a pas commis la moindre erreur, qui a dégoûté la concurrence. Cette formation Alpecin de Koenig qui était partie de presque rien et qui est devenue aujourd'hui l'équipe référence des courses d'un jour. On vous racontera cette success story. Et les Français dans tout ça, me direz-vous? Bah oui, Mathieu, on va se rassurer comme on peut, est à moitié français, malheureusement pour nous. Il porte les couleurs néerlandaises en course. Quant aux autres tricolores, eh bien, c'est pas la fête. Le meilleur d'entre eux, Christophe Laporte, prend la 25e place. Le plus mauvais résultat depuis des années. On sortira notre nouveau baromètre des résultats des coureurs tricolores. Un baromètre qui indique ces temps derniers météo bien maussade. Maussade également le moral du peloton après les terribles chutes de ces derniers jours. On prendra des nouvelles des fantastiques touchés dans leur chair, notamment Jonas Vingegaard. Peut-il encore espérer participer et remporter le Tour de France? Débat dans Grand Plateau tout à l'heure. Et pour parler de tout ça, la fine équipe est au complet, composée de celui qui est à la fois notre guide et notre druide, Cyril Guimard. Bonjour Cyril.
Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien récupéré des pavés sauce cailloux d'hier.
Oui,
voilà.
Oui, ça va, on est pas mal.
Enfin, la digestion a été bonne, c'est parfait. Alors.
On n'est pas les plus touchés par les cailloux. À ses côtés, c'est fidèle lieutenant Arnaud Souk qui nous revient justement de Roubaix, qui était allé
j'ai
reconnaître...
J'ai pas ramené de
pavés. Attends, t'es allé les repérer quand même.
Je suis allé les repérer, bah oui, ça je les ai vus. Ça je peux te dire, je les ai vus, j'ai vu la boue, mes chaussures s'en souviennent.
T'as vu la magnifique chicane aussi.
J'ai vu la magnifique chicane, absolument. Ouais, voilà.
On a beaucoup parlé, ça a rien donné. Enfin,
oui,
ça a rien donné, ça a voilà. Calmé le peloton.
Bah, écoute, au moins on en aura parlé une fois, ça aurait été réglé, il n'y aura plus de chicane l'an prochain a priori.
Ah, donc, mais voilà. Il y aura d'autres choses. Et puis,
on aura ce qu'il faut pour nous chicaner.
Ne nous inquiétons pas, il y aura toujours des choses à dire. Yann Bredov avec également de la partie aujourd'hui. Ça va, mon Yo?
Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Ça va très bien.
Allez, Yann.
Bien sûr. Eh ben, écoute, si tout le monde est là, on va pouvoir revenir donc sur cet incroyable Paris-Roubaix parce qu'il n'y a vraiment pas eu photo ce dimanche sur les pavés du Nord. Un homme, un seul, a attiré la lumière sur son beau maillot arc-en-ciel. Un certain Mathieu Van Der Poel, autoproclamé monarque absolu des classiques.
Mathieu Van Der Poel, peut-être va-t-il faire 60 bornes tout seul? J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas.
Oh là, ça bouge.
Oh, Mathieu Van Der Poel,
voilà. Ça bouge.
Vous disiez que la fin de la sieste arrivait.
Ben voilà, Mathieu Van Der Poel a décidé de faire lui briller l'arc-en-ciel sur Orchi. Oui, voilà, il va falloir sortir l'écrou. La première flèche lancée à 60 km par Mathieu Van Der Poel.
Il n'arrive pas à passer les 2 minutes avant.
Oh là là.
Faut-il s'inquiéter pour
le pop chou qui est retombé à 1 minute 58.
L'enfer, c'était pas pour lui aujourd'hui, c'était pas pour Mathieu Van Der Poel, c'était pour les autres. Le paradis pour Mathieu Van Der Poel, le paradis pour le champion du monde qui va rentrer un petit peu plus dans la légende aujourd'hui. Y a-t-il vraiment débat pour Mathieu Van Der Poel? Fait-il partie de la légende? Je crois que oui, je crois qu'aujourd'hui on peut le dire, le premier champion du monde a réalisé un tel doublé et un doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix inédit depuis 2013. Il écrit chaque jour un peu plus la légende du vélo. Mathieu Van Der Poel qui va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Il ne soulèvera pas son vélo cette fois-ci. Les deux bras levés comme celui qui domine le vélo et les classiques de la tête et des épaules. Le 6e monument de Mathieu Van Der Poel. Tout simplement le meilleur coureur de classiques de notre époque.
Voilà, avec les exploits à répétition de Van Der Poel, on a du mal à trouver les superlatifs adéquats. Semaine après semaine, il nous épate chaque fois un peu plus. Cyril, ce garçon est véritablement bluffant. La semaine dernière, on pensait qu'il avait réalisé le plus bel exploit de sa carrière dans le Tour des Flandres. Et hier, bah, il a encore fait mieux, quoi. Il a encore fait mieux. Chaque fois, c'est mieux.
Mais chaque fois c'est mieux, chaque fois un peu plus impressionnant. Quand on refait un petit peu l'histoire de sa carrière, on va dire, si on part de chez les cadets, il a toujours progressé tous les ans. Puis il a eu, de par ses aptitudes de cyclocrossman, un parcours un peu différent des autres routiers, dans la mesure où il est véritablement venu à la route, au niveau professionnel bien sûr, car au niveau amateur il courait déjà sur la route, mais surtout à partir de junior. Mais le fait d'être arrivé un petit peu plus tard, d'autres étaient en place et on se dit, est-ce qu'il va arriver, parce qu'il est quand même effectivement virtuose dans le tout terrain. Et puis au fil des courses, eh bien il a progressé. Je me souviens, moi, d'une de ses victoires au début. Il arrivait sur la route, c'était au Grand Prix de Denain, un Grand Prix de Denain, course toute plate, où il était sorti à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Il est resté jusque sur la ligne d'arrivée, avait posé devant le peloton avec 150 mètres, personne n'a pu aller le chercher. Je me suis dit, il est encore tout neuf. Il avait fini complètement détruit, et c'est une de ses grandes qualités, c'est d'être capable de finir détruit, de finir mort. Et comme je dis toujours aux coureurs, tant que vous ne serez pas capable de finir mort à chaque course, vous ne progresserez pas. Et c'est cette capacité à se faire mal, qui vient aussi du cyclocross, hein. Cette capacité à se faire mal, qui permet de progresser et d'arriver au niveau où il est aujourd'hui. Alors la vraie question, je vais la poser à votre place, ira-t-il plus haut ?
Oui, bah oui, on va se la poser, mais ira-t-il plus haut
Ça veut dire quoi, aller plus haut? Ça veut dire gagner le Tour de France?
Non.
Ah,
non.
Tout gagner?
Ça veut dire, je ne sais pas, faire aussi bien que Eddy Merckx en matière de classique, mais c'est pas tout de suite.
On en est loin,
mais il a 29 ans.
Oui, mais parce qu'il est venu beaucoup plus tard.
Mais peut-être, mais on en est loin.
Oui, on en est loin.
6, 19, hein,
nous sommes d'accord avec toi.
Ouais. Évidemment.
Ouais. 13 monuments, ça fait beaucoup, sachant qu'on considère que le Lombardy est ingagnable pour lui en l'état actuel des choses. Que Liège-Bastogne-Liège, moi je pense que c'est gagnable, mais bon, il va quand même falloir batailler avec Pogacar cette année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans tu peux compter gagner Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il va falloir 6 ou 7 ans quand même pour battre Merckx.
Et Milan-San-Remo.
Et Milan-San-Remo, oui, mais regarde, cette année il n'a pas gagné. Hein.
Ouais. En fait, bon, il y en a combien qui lui manquent? 2?
Oui, non, mais moi je te parle pour
la panoplie de ce qu'on peut.
Bon, oui,
de ce qu'on
réaliser peut le grand chelem en classique, ça paraît difficile. Moi je le vois pas gagner le Tour de Lombardie, franchement.
Non, à chaque fois c'est pour un grimpeur, mais même Liège, hein, ça récompense souvent des purs grimpeurs. Alors oui, il est capable de le gagner.
Gilbert l'a déjà gagné, hein.
C'est ça,
il a même beaucoup gagné. Donc,
Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu plus de concurrence sur Liège.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Et cette année, il sera opposé à Tadej Pogacar. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça risque d'être pas mal.
Et pourtant, comme la semaine dernière, il avait, Arnaud, une jolie pancarte dans le dos, mais ça ne le gêne aucunement d'avoir la pancarte. Il faut dire que quand on a la puissance, la dextérité, la baraka et l'équipe, on pourrait presque lui coller une caravane à l'arrière du vélo qu'il gagnerait encore. Van der Poel, dont on a vite senti hier qu'il avait des fourmis dans les pédales, Arnaud, si on ne l'avait pas raisonné, on pense même qu'il serait parti dès à Amberes.
Le vainqueur de la 121e édition de Paris-Roubaix, représentant les Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel.
Effectivement, dès à Amberes, on a senti qu'il avait envie de montrer de quel bois il se chauffait, Mathieu Van Der Poel. Il a placé une petite accélération, il n'y a pas grand monde qui a pu suivre à ce moment-là, regroupement derrière et à la fin, finalement, donc cette échappée de 59 km, c'est la deuxième plus longue de l'histoire de l'Enfer du Nord après André Schmil en 1994, et finalement, eh bien, ce doublé sur Paris-Roubaix, victorieux 2 années d'affilée comme Tom Boonen l'avait fait il y a 15 ans. Mais c'est vrai que pour revenir à cette échappée, Mathieu Van Der Poel lui-même ne s'attendait pas à faire de tels dégâts quand il a attaqué dans le secteur d'Orchy.
Non, on n'est jamais sûr et c'était pas une attaque pour aller seul déjà jusqu'à l'arrivée, mais j'avais vraiment des jambes incroyables aujourd'hui, donc j'ai juste roulé si fort pour aller jusqu'à l'arrivée.
Voilà, jusqu'à l'arrivée, le nouveau succès donc du petit-fils, hein, de Raymond Poulidor, qui rentre un petit peu plus dans la légende du cyclisme. Il remporte en une semaine deux des courses les plus mythiques du calendrier cycliste, donc Tour des Flandres et Paris-Roubaix.
Même les pavés, j'ai vraiment essayé de savourer le moment. C'est quelque chose que je vais jamais oublier. Donc, j'aurais jamais rêvé comme enfant que j'aurais gagné toutes ces courses. Je me rends compte qu'on a fait l'histoire aujourd'hui.
Voilà, l'histoire. L'histoire avec notamment cet écart de 3 minutes sur le deuxième, le Belge Jesper Philipsen. C'est le plus gros écart depuis 20 ans. À l'époque, c'était Museu face à Westman. Arrivé 5e avec 3 minutes 15 de retard, le Suisse Stefan Küng ne pouvait lui que saluer l'artiste.
Un jour, je pourrais raconter à mes enfants que j'ai couru avec le fameux Mathieu Van Der Poel. Quand il accélère, c'est vraiment autre chose. On n'a pas pu suivre. Et même après, il creuse encore quand nous, derrière, on roule. Et ouais, chapeau.
Et on l'a dit il y a quelques instants, avec 6 monuments à son palmarès, Mathieu Van Der Poel est désormais le meilleur coureur de classique de notre époque. Il laisse Tadej Pogacar juste derrière lui. Tadej Pogacar qui a 5 monuments, mais les deux hommes vont s'affronter. Donc on l'a dit à Liège-Bastogne-Liège dans 2 semaines.
Ça va peut-être être finalement la classique la plus excitante de la saison, parce que là, normalement,
je pense que ça va être la plus excitante.
Normalement, évidemment, il reste encore du temps avant Liège-Bastogne-Liège. Les deux grands du peloton vont s'affronter.
Enfin,
puisque Van Aert n'a pas pu être là pour affronter Van Der Poel, que Vingegaard sera peut-être pas là, on en parlera tout à l'heure, pour affronter Pogacar dans le Tour de France.
Bon, ils se sont affrontés sur Milan-San Remo, bien excitant aussi.
Bien sûr.
Mais quand on voit justement sur Milan-San Remo comment c'était.
Et finalement, Cyril, la classique la plus excitante de ce début de saison a été Milan-San Remo, parce que on adore Mathieu, franchement il nous régale. Et d'ailleurs il y a deux écoles sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Il y a ceux qui disent on s'est vraiment emmerdé dans ce Paris-Roubaix, et d'autres qui au contraire sont dithyrambiques par la qualité de rouleur de Mathieu, sa façon de rouler sur le haut du pavé, de rattraper lorsqu'il est un peu en difficulté dans certains virages, de se rattraper. Bon, voilà, il y a deux écoles, mais il n'empêche aujourd'hui, on s'ennuie quand même. On s'ennuie quand même dans ces grandes classiques. Et la plus belle, c'était Milan-San Remo, Cyril.
Oui, mais ça dépend ce que l'on regarde. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ceux qui s'ennuient, mais qui sont là tous les dimanches. Je trouve que c'est bien parce qu'ils reviennent. S'ils reviennent, c'est qu'ils y ont quand même pris du plaisir. Et peut-on appeler ça une école, les gens qui s'ennuient? Je ne crois pas. Je pense qu'on a vécu.
Alors on s'ennuie pas tout au long de la course.
On s'est pas ennuyé au début.
On s'ennuie sur le. Ah oui. Une fois que la différence est faite, tu peux. D'habitude, la sieste, on la faisait plutôt en début de course, jamais à la fin. Maintenant, il faudrait faire l'inverse finalement, c'est-à-dire faire la sieste vers 16h, 16h30.
Oui, ou alors réduire les grands monuments à 70 km, quoi. Ça serait beaucoup mieux. Oui.
Non. Bon, tu parles, il accélérerait au kilomètre zéro et puis personne ne le reverrait.
Non, enfin, tout dépend comment on regarde les images, comment on regarde l'exploit, comment il est construit, parce que ce qui se passe dans le final, eh bien, ça vient de tout ce qui s'est passé depuis le départ, mais pas que depuis le départ, depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis Cadet, hein, pour la plupart des coureurs. Donc, non, moi j'ai vu hier, mais comme au Tour des Flandres, comme avec Pogacar sur les Strade Bianche, j'ai vu des artistes, pas des coureurs cyclistes, des artistes. Quand on regarde Van Der Poel hier, même moi, si je suis derrière dans la voiture, je l'arrête, j'accepte pas qu'il passe à cette vitesse-là dans tous les virages, et à chaque fois je me dis, mais il va glisser.
Je t'ai senti vachement inquiet, Cyril. Tu disais, mais il prend trop de risques.
J'étais inquiet parce
qu'il va se mettre par terre.
Il était à la limite de tout. Mais c'est là où les artistes ont quelque chose de plus que les autres. Et c'est ça qu'il faut regarder. D'un autre côté, regardez, au moment là où tous les coureurs ont des vélos qui sont pas adaptés, où c'est le coureur qui doit s'adapter, il y a deux coureurs hier que vous avez vus sur tous les pavés, avoir les mains en bas du guidon. Donc avoir une stabilité beaucoup plus importante que les autres, c'est Pedersen et c'était Van Der Poel. Pour pouvoir passer avec les mains en bas, ça veut dire que, un, on a énormément travaillé dans cette posture, mais qu'on est capable de passer les watts, on descend le centre de gravité le plus bas possible, et vous êtes beaucoup plus adroit.
Et
beaucoup
Cyril,
de coureurs sont incapables de rouler avec les mains en bas.
Et Cyril, ça explique notamment l'écart monstrueux entre Van Der Poel et le reste de la concurrence, parce que, bon, certes, il y avait le vent dans le dos, donc on a dit 47-802 de moyenne, édition la plus rapide, ok, ça explique en partie la vitesse moyenne qui a été accomplie hier. Mais pour expliquer les 3 minutes entre Van Der Poel et le reste de la concurrence, il y a bien sûr le fait que Van Der Poel manifestement en a plus dans les jambes, mais il en a surtout beaucoup plus dans la technique. Et ça s'est vu hier parce que vraiment il en maîtrise. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi Cyril quand tu dis il prend des risques, il prend trop de risques. Moi je pense que c'est un risque tout maîtrisé, qu'il a fait tellement de cyclocross, qu'il a fait tellement de VTT, qu'il a fait tellement, enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi Johan, mais il a fait tellement, il a tellement de un bagage technique énorme que
il court naturellement en fait.
Voilà, c'est naturel.
Si jamais il allait un petit peu moins vite, je pense que c'est là où il prendrait le plus de risques. En fait, il court comme il a l'habitude de courir. Tu parlais du cyclocross. D'ailleurs, il y a une image très intéressante. C'est l'état des mains à l'arrivée.
Absolument.
De certains. Parce que Mathieu Van Der Poel, les mains sont toutes lisses, elles sont magnifiques, bien cornées comme il faut. Et je pense à Pidcock, j'ai pas l'identité de l'autre coureur, il m'échappe, mais qui a les mains, des ampoules énormes.
Un coureur soudal, il a les mains en sang.
Et alors là, imaginez la souffrance d'avoir des mains d'ampoules qui éclatent sur pavé. Et c'est là où Van Der Poel aussi est plus fort, c'est que dans la tête, il est plus fort. Et physiquement, en fait, c'est un monstre. Et ça, tu l'as dit Arnaud, tu l'as dit Cyril, ça vient de son passé de cyclocross et c'est juste impressionnant de le voir.
Ça vient de ses gènes aussi. Peut-être encore.
Aussi, peut-être.
Oui, il a des gènes français. Hein. Donc, c'est
oui,
normal.
Néerlandais aussi, au passage.
De bons gènes français, de bons gènes néerlandais, les meilleurs. Quoi. C'est-à-dire, en matière de génisme, on pouvait difficilement faire mieux que Mathieu Van Der Poel. En fait, c'est ça. Il a été conçu en laboratoire, ce garçon. Il a été conçu en laboratoire.
Mais tout à fait. D'ailleurs, Raymond Poulidor était un grand scientifique, hein, vous le savez. Alors, vous savez ce qui explique pourquoi il n'a pas d'ampoule dans les mains?
Vas-y, c'est parce qu'il a les mains en bas du guide, en bas de.
Quand vous avez les mains en bas, avez très peu de
frottement. Ça tape moins, ça frotte moins, ouais.
Bah sinon, vous avez, si vous êtes aux cocottes, donc vous tenez les freins et ça vibre énormément et d'accord. Vous n'avez pas la main
plus
fermée.
Plus haut, plus ça vibre.
Oui, mais vous n'avez pas les mains fermées. Vous avez les mains ouvertes avec tous les frottements. Et comme il faut maîtriser le vélo, ça veut dire qu'en plus vous serrez. Quand vous avez les mains en bas, vous avez un tube dans la main.
Ouais.
Et quand vous êtes bien posé, que vos rapports de masse sont bien répartis parce que vous avez une bonne position, pas une position de vététiste comme certains coureurs, voire dans certaines équipes. Donc il est bien posé, il est souple, il est relâché. Sur les pavés, faut être relâché. Faut avoir la main ferme et les bras souples. Donc voilà deux coureurs, parce que je parlais de Pedersen. Pedersen, c'est exactement la même chose. Donc des ampoules, il peut pas en avoir, tout simplement, parce que il est bien posé, il est harmonieux sous le vélo, il est souple.
Oui, oui. Fantastique donc performance de Mathieu Van Der Poel. Vous l'avez entendu d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure d'Arnaud, Stéphane Kung qui nous dit le fameux Mathieu Van Der Poel. On a l'impression qu'il accepte, et c'est pas qu'une impression,
il avait du mal.
Il accepte le peloton d'être le vassal de Mathieu.
Alors aujourd'hui. Très honnêtement sur mais Stéphane Kung, je sentais quand même, bon c'est un garçon et je vais encore lui passer de la pommade dans le dos, mais c'est un garçon qui est hyper abordable, qui est hyper sympa. C'est l'un des seuls gars hier hors équipe Alpecin de qui est resté après au Vélodrome pour répondre aux questions dans toutes les langues, parce qu'en plus il parle allemand, il parle néerlandais, il parle anglais, il parle français. Et c'est vrai que Stéphane Kung, il est venu répondre aux questions en français. J'ai senti que il a compris que je voulais l'interroger sur Van Der Poel. Je l'ai quand même poliment d'abord interrogé sur sa course. Et vraiment, j'ai senti une déception immense, quoi. Une déception immense de se dire quand Mathieu Van Der Poel accélère, on peut strictement rien faire. Mais Stéphane Kung, faut se souvenir quand même que son troisième top 5 déjà sur Paris-Roubaix. Bon, c'est un coureur qui est quand même toujours placé et qui n'est jamais gagnant. On va se rappeler aussi que sur le Tour de France, il y a quelques années, sur le Tour de France en 2021, il tenait sa première victoire sur chrono. Et là, bam, Pogacar à Laval est venu lui chipper la victoire. Il faut se souvenir de la tête de Stéphane Kung ce jour-là qui a fait non comme ça de la tête, qui était dégoûté que Pogacar vienne lui subtiliser la victoire. C'est un coureur qui est multimédaillé au niveau mondial. Hein. Il a des médailles de champion du monde derrière notamment Pedersen en 2019 et Trentin.
Il lui manque,
cette victoire, il lui manque ce grand succès.
Le petit truc qui fait la différence.
Et il a conscience que c'est décevant pour lui. Il a conscience que c'est décevant. Il a conscience que ce palmarès-là, il ne va pas l'avoir. Donc, oui, il y a Van Der Poel qu'il ne peut pas battre, mais il regarde d'abord son aspect, lui, de compétiteur, et il est dégoûté. Son premier truc, c'est quand même qu'il est dégoûté, Stéphane Kung.
Donc il n'accepte pas d'être le vassal de...
Bah, et t'as d'autre choix que de l'accepter, de toute manière.
Parce qu'on a, eu l'impression, Cyril, quand même, pendant cette course, qu'à partir du moment... Et tu le disais, il faut 30 secondes. À 30 secondes, ce sera terminé. À 30 secondes, il n'y a plus personne qui ira. Et effectivement, ça s'est vérifié. C'est monté très, très vite. L'écart est monté très vite.
Ah oui, en 15 kilomètres, il avait...
Alors, dans les tout premiers instants, il y en a certains qui ont essayé. Mais ils n'ont pas pu aller bien loin. La faute, enfin... ou plutôt grâce à la formation alpécine et les deux chiens de garde de Van der Poel hier qui ont été Philipsen et Vermeersch qui ont été énormes. Quand tu as tout ça, que tu es le plus puissant, que tu es le plus adroit sur le vélo et qu'en plus tu as une équipe comme ça, Cyril, tu es imbattable.
C'est ce qui s'est produit, il est imbattable actuellement sur les deux Flandre et Roubaix, il est imbattable, mais il a aussi quelques coureurs qui sont pas loin d'être les plus dangereux, ses plus dangereux adversaires, mais ils sont chez lui. Philipsen, deuxième l'an dernier, deuxième cette année, et Milan Sanremo qu'on peut ajouter, ce qui est quand même pas mal. C'est difficile de faire mieux que Philipsen. Hein.
Bah oui. Mais alors je me demande parce que hier on s'est posé la question au moment où juste avant que Van der Poel attaque, on se posait la question de savoir. Alors ils vont arriver au Vélodrome tous les quatre. Est-ce que Van der Poel va se mettre au service de Philipsen? Est-ce que Van der Poel va essayer d'en mettre une à Philipsen? On a eu la réponse. Est-ce que tout ça est écrit? Est-ce qu'il y a un scénario qui est décidé avant la course par les managers, par les DS? Tu as connu ça évidemment. Tu as eu aussi dans certaines courses de leaders possibles. Comment est-ce qu'on décide ça à l'avance?
Alors sur les grands monuments en règle générale, hein, sont quand même des courses exceptionnelles. Sur un Paris-Roubaix, vous imaginez un certain nombre de scénarios. Sur Paris-Roubaix, d'être pas sûr de ne pas crever, de ne pas tomber, de ne pas être piégé derrière une chute. Bref. Donc vous ne savez pas ce qui va sortir. Et le vrai scénario, il arrive après la tranchée, ou la trouée, comme on veut. Après la trouée, les choses étaient claires. Ils étaient trois. Et encore, ils en ont perdu sur crevaison, sur chute. Après, c'était plus possible. Vous voulez faire quoi contre le plus rapide du monde aujourd'hui, qui est capable de gagner Paris-Roubaix si Van der Poel n'est pas là? Vous avez Van der Poel et vous avez Vermeersch qui vole au-dessus des pavés.
Mais on a vu que dans Milan-San Remo, par exemple, la tactique avait été changée, sans doute, parce que Philipsen...
Ah oui, mais là, ça a été changé vraiment par les circonstances, dans Milan-San Remo. C'est si jamais Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar parviennent à s'extirper, ils s'extirpent. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, c'est Philipsen qui le racontait. Il a dit dans la radio à Van Der Poel, il a dit « Attends-moi, je suis bien, je peux faire le sprint, je vais revenir. » Et donc, dans la descente, c'est pour ça que... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a raconté après la course, mais je veux croire que ça soit vrai.
Et on rappelle que c'était la première course de Van Der Poel sur route cette année, donc il n'avait pas non plus ses jambes encore, mais là c'est ce qui s'est passé, il l'a dit, là c'était l'inverse, c'est Van Der Poel qui a dit voilà j'ai des super jambes et je vais partir. Après Philipsen il a juste soit à suivre et il va arriver à 3-4, soit à attendre, et dans ce cas là il a fait exactement la tactique qu'il fallait, et aller chercher tout le monde et décourager tout le monde.
Mais Cyril, on peut continuer, cette équipe peut continuer avec ces deux cadors comme ça? Est-ce qu'un jour les égos des uns et des autres vont pas faire qu'il peut y avoir quand même quelques...
C'est toujours comme ça qu'on casse les dynasties. Hein.
Ouais.
Bon, alors il faut savoir que le premier patron de l'équipe, c'est Van der Poel. Je parle même pas au niveau des coureurs.
Oui,
hein,
c'est un patron qui se met régulièrement au service de son lieutenant. Regarde ce qui s'est passé sur
le patron. Non, mais ce que veut dire Cyril, c'est que c'est le patron vraiment en termes financiers aussi.
C'est
les sponsors qu'il a attiré lui. C'est quand il se déplace, par exemple, pour faire du VTT ou faire du cyclocross, il a son petit camion alpécine de Koenig qui le suit. Faut pas rêver. Donc c'est ça que veut dire Cyril. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, c'est lui qui en décidera. Et de toute manière, Jasper Philipsen, enfin là, tu me trompes si je me trompe, Johan, mais il me semble que la rumeur, il est en fin de contrat cette année, l'envoyait plutôt dans une autre équipe.
Exactement, mais on s'est posé la question après Milan-San Remo. La grande question, c'est est-ce que Jasper Philipsen aura l'avantage d'être contre Mathieu Van Der Poel? Et moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il a plus de chances de gagner en étant dans l'équipe de Mathieu Van Der Poel qu'en étant contre lui. Donc, je pense que la meilleure idée pour lui, ouais, c'est de rester dans cette équipe. Après, voilà. Oui, si il gagne Milan-San Remo, c'est parce que
le patron s'est partagé par moment.
Exactement. C'est lui qui décide de toute façon. Il décide. C'est le chef de l'équipe. Mais s'il doit gagner, il va aller gagner. S'il voit qu'il peut pas gagner, il va se mettre au service de Philippe Seb.
C'est un peu comme ce qu'on disait aussi, Cyril.
Parce qu'il est le taulier de l'équipe.
Mais c'est un petit peu.
Quand je dis qu'il est. Il est actionnaire de la boutique.
Oui, oui, mais on a compris.
Et donc,
mais
si lui, il peut pas gagner, son intérêt, c'est de faire gagner quelqu'un de la boutique.
Et il y a aussi ce côté, entre guillemets, je t'aide et tu m'aideras après. C'est ce qu'on dit à chaque fois avec Pogacar et tes équipiers. Ou avec Laporte et Van Aert. C'est une manière aussi de, entre guillemets, hein, je mets vraiment des gros guillemets.
Tous les grands champions savent le faire, sinon ce sont pas des grands champions.
Et donc là, je pense qu'on est en plein dedans. Et juste pour parler de Vermeersch aussi, parce qu'on parle beaucoup de Philippe Sen, mais Vermeersch hier a été excellent. Il avait déjà été excellent la semaine dernière sur le Tour des Flandres. Là aussi, on reconnaît la touch d'Alpecin de Koenig et la touch du cyclocross, parce que ça a été aussi un très bon cyclocrossman, Gianni Vermeersch. Donc voilà, ça explique aussi cela. Et on a vu hier effectivement que il avait quelque chose en plus des autres et qu'il était capable de voler sur le pavé lui aussi.
L'équipe Alpecin qui depuis l'an dernier n'a laissé échapper qu'un seul des trois premiers monuments de la saison, à savoir Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Roubaix. C'était le Tour des Flandres de l'an dernier, remporté par Tadej Pogacar. Sinon, c'est Van Der Poel et son équipier qui les ont donc tous remportés. Cette équipe devenue une spécialiste des classiques. Johan, alors explique-nous comment tout ça est arrivé, comment ça s'est fabriqué et façonné.
C'était surtout une équipe spécialiste à la base du cyclocross. Hein. Ils sont axés sur ça au début, quand les frères Rudolf ont créé l'équipe en 2009, autour d'un homme. Déjà, c'était Nils Albert, qui a été double champion du monde de cyclocross. Mais en 2014, on lui découvre des problèmes cardiaques, obligé de stopper sa carrière. Coup de chance, 1er janvier 2014, il y a un jeune de 18 ans qui signe, qui rejoint son frère David. C'est Mathieu Van Der Poel qui a tout cassé en junior, qui signe dans l'équipe Alpecin. Il va forcément crever l'écran dès ses premiers mois de compétition, dès les premières saisons. L'équipe qui reçoit la licence continentale en 2019, et là Mathieu Van Der Poel il gagne juste à travers les Flandres et à travers la Flandre et l'Amstel. Tim Merlier, qui avait signé en cours de saison, est champion de Belgique. Donc voilà, déjà on va tout axer autour de Mathieu Van Der Poel, qui gagne tout, qui fait tout dans cette équipe. On l'a dit, c'est lui le patron. En 2020, il va leur apporter leur premier monument en remportant le Tour des Flandres, ainsi qu'une 12e place UCI, très importante évidemment pour accéder au World Tour. En 2021, on a Jasper Philipsen qui signe. Alors là, c'est le trio Merlier, Philipsen et Mathieu Van Der Poel qui gagnent quasiment tout. Mathieu Van Der Poel qui s'impose sur les stradés. Ils vont gagner des étapes sur les trois grands tours. Ils vont être placés sur les monuments. Ils vont avoir des victoires sur les courses d'un jour. Merlier et Van Der Poel qui enchaînent en 2022. Van Der Poel qui gagne le Tour des Flandres. Philipsen, lui, il gagne deux étapes sur le tour. Donc c'était déjà assez incroyable ce que faisaient ces hommes. 2023, enfin l'équipe est en World Tour, et là on en a parlé, Van Der Poel qui gagne Milan-San Remo, qui gagne Paris-Roubaix, Philipsen qui fait deuxième, et là 2024, et ça on l'a pas dit encore, mais c'est la première fois qu'une équipe gagne les trois premiers monuments de la saison. Ça c'est assez incroyable, et c'est dire la montée en puissance d'Alpecin, qui est donc à son apogée actuellement.
Et il est si bien là-bas, Mathieu, qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2028 et signé un contrat au long cours également avec Canyon, hein, qui est le fabricant de son vélo, qu'il a remercié.
En fait, il a signé avec lui-même. Mais c'est marrant parce que l'état d'esprit, la philosophie de cette équipe, alors qu'elle n'est pas en World Tour, Van Der Poel, il va nulle part ailleurs, il reste là. Ouais. Il reste dans une équipe de deuxième division et ils sont au niveau des World Tour. Mais il va rester dans cette équipe jusqu'au moment où il va la faire monter en World Tour. Et aujourd'hui, elle est au sommet de la pyramide. Mais cette façon de bâtir, de grandir, de construire et d'amener là où elle est aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur exemple de la gestion, on va dire, intelligente d'une équipe, sans faire appel obligatoirement à beaucoup de sous.
Alors, pour en revenir à ses rapports avec son fabricant de vélos, ça doit
sans doute coûté très cher à Canyon, évidemment, d'avoir Van Der Poel, mais c'est un sacré investissement. Un jour, il porte sa bicyclette en triomphe sur la ligne. La semaine d'après, il la cajole comme on cajole un cheval en signe de remerciement. Tout ça, c'est du pain béni, évidemment, pour le manufacturier. Parce que
là, ben c'est clair, oui, c'est incroyable. Clair. Et en plus, là, on l'a vu. En plus, le vélo, il est beau. Il est aux couleurs il est blanc. Il est avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Effectivement, il n'y a qu'à.
Il n'y a jamais un problème sur le vélo.
Il n'y a jamais un problème sur le vélo. Et il n'y a qu'à aller rouler. Il n'y a qu'à aller rouler
oui,
avec.
Effectivement, il n'y a
peux
pas
parler,
de problème
Cyril,
sur le
comment
vélo.
Ça se passe? Tu coupes tout le monde aujourd'hui.
Oui, non, je renforce ce que tu dis.
Il n'y a qu'à aller rouler avec des amateurs un petit peu forts à l'hippodrome de Longchamp à Paris ou à Vincennes.
Ils ont tous des canyons.
Mais non, je ne te dis pas qu'ils ont tous des canyons. Mais en tout cas, alors la grande mode ces dernières années, c'était de voir des vélos Specialized, alors qu'on n'en avait quasiment jamais vu. Mais comme Julien Alaphilippe et Peter Sagan avaient un Specialized, il fallait le Specialized. Là, les canyons, on commence à en voir sortir quelques-uns depuis quelques temps, et c'est sûr que évidemment voilà, maintenant tout le monde, tous les jeunes vont vouloir un canyon, parce que c'est comme Wilson et Ed en tennis, enfin, ou Babola ou c'est je ça, ne sais ouais. quoi, c'est comme
tu t'identifies, en fait
tu t'identifies, et donc là ben voilà, il y a une identification aux champions. Et même moi je fais un petit peu de vélo, j'ai mon petit vélo de la marque Cube, pour ne pas la citer. Je détesterais pas avoir un petit vélo canyon, ça me démange quand même, tu vois, d'aller en tester un et de voir la différence.
Tu gagnerais Paris-Roubaix avec ça?
Ah oui, je pense que je pourrais te gagner sur Paris-Roubaix, ça serait déjà pas mal. Quoique toi, sur les pavés, tu dois bien avancer, ouais, vu que tu amortis les chocs, toi.
La stabilité, j'ai amorti les chocs.
Non, mais c'est vrai, je sais pas ce que t'en penses, Christophe, mais si tu achètes un vélo, si t'as envie de mettre un peu d'argent dans le vélo, autant dans un vélo, autant t'identifier.
Le vélo du champion.
C'est comme quand t'achètes un maillot, t'as envie d'acheter le maillot du Barça, du PSG, de je sais pas qui, de Quickstep à l'époque quand Alaphilippe gagnait tout, ou aujourd'hui du AE ou de la Jumbo Visma.
Moi, j'avais le maillot J'avais le maillot de Cyril Guimard quand j'étais jeune, par exemple.
Ou le Mercier. Bah oui, mais ça vaut maintenant. T'achètes un Mercier.
En laine, je sais, mais ça grattait un peu.
Oh.
Ah, c'est désagréable.
Oui, mais quand tu tombais, il te restait du vernis.
Tu as raison. On en parlait hier avec Christian Prudhomme sur la sécurité des coureurs. Et il espère justement qu'on puisse arriver à améliorer la façon de revêtir les coureurs cyclistes.
Un vrai sujet.
Alors, je sais pas.
Donc Stéphane Kung en parlait justement juste avant Paris-Roubaix. Il disait, c'est vrai que moi j'ai vu l'évolution en 10 ans, lui ça fait 10 ans qu'il est professionnel, l'évolution en 10 ans ne serait-ce que des tenues des cyclistes qui sont hyper aérodynamiques, donc déjà qui permettent d'aller plus vite, mais le fait qu'elles soient hyper aérodynamiques, c'est parce que maintenant effectivement ça colle au corps, donc en fait t'as juste t'as la peau et les os, quoi.
Ouais. Et les pubs. Van Der Poel qui s'impose donc à l'arrivée à Roubaix avec 3 minutes d'avance sur son coéquipier Philippe Sem, c'est là Arnaud, des plus gros écarts depuis 20 ans. Mais c'est pas le seul chiffre qui impressionne et qui a impressionné hier. Hein.
Oui, j'en ai compilé quelques-uns comme ça que je vais vous donner aux débeautés. Les échappées sur des monuments au 21e siècle. Paris-Roubaix 2024 restera donc au 21e siècle comme la plus grosse échappée sur un monument, 59 km 600 devant Philippe Gilbert au Ronde 2 2017 qui avait fait 56 km d'échappée, devant Tom Bonen qui avait fait 53 km 200 d'échappée sur Paris-Roubaix en 2012. C'est la deuxième plus longue échappée sur un monument de l'histoire, donc du cyclisme, après Andrei Schmil en 1994. Il a battu également le record de l'édition la plus rapide, on l'a dit tout à l'heure, 47,802 de km/h de moyenne. Sixième monument, c'est tout simplement le dixième au palmarès des monuments, à égalité avec Moser, Museu, Moreno Argentine. Il pourrait rejoindre Cancellara, Bounen, Bartali à 7 s'il s'impose sur Liège-Bastogne-Liège. On l'a dit, il est quand même encore loin des 19 monuments du cannibale Eddy Merckx. 49e victoire en carrière, 22 victoires sur des courses d'un jour, ça fait 45%, je ne sais pas si on se rend compte de ce chiffre-là. C'est le premier doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix depuis Cancellara, et c'est seulement le deuxième doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix après Rick Van Looy en 1962 pour un coureur qui porte le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules. Un dernier petit élément, on l'a dit, tu m'avais lancé là-dessus, Christophe, 3 minutes, c'est le 13e plus gros écart de l'histoire sur Paris-Roubaix, le plus gros au 21e siècle depuis Museu en 2002 par rapport à Westman. J'aurais pu te citer, mais ouais, plein d'autres choses.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres, évidemment.
Mais voilà, mais quand il dit hier, j'ai conscience qu'aujourd'hui on a marqué l'histoire, voilà. Quelques-uns des chiffres qui le...
Exactement, et on verra dans quelques minutes si Van Der Poel pourrait encore améliorer ses fantastiques statistiques dans les semaines à venir. Mais avant cela, il est l'heure d'ouvrir, messieurs, notre petit baromètre, le baromètre des coureurs français, qui depuis le début de la saison des classiques indique invariablement un temps maussade.
RMC, le baromètre des Français.
Alors, le premier Français de ce Paris-Roubaix se nomme Christophe Laporte. Il termine seulement 25e. On rappelle qu'il disputait là sa course de rentrée, pas de rentrée, mais enfin de retour après avoir été victime de problèmes de santé auxquels s'est ajouté hier un problème de crevaison dès le premier secteur pavé. Ça casse le moral rapidement. Il a des circonstances atténuantes. Avant que vous ne le notiez, on va d'abord l'écouter.
Bah, j'ai rien vu la course en vrai. J'ai crevé au premier secteur donc c'était une course très rapide. Je sais même pas où je suis, je sais même pas combien de gars devant. À un moment donné, je pensais presque arrêter. Après, j'ai dit bon, maintenant je suis là, je vais tout donner jusqu'à l'arrivée, on verra bien. Comme j'ai dit, j'étais déjà content d'être au départ. Je me sentais pas si mal au final, mais voilà, ça a roulé très vite dès les premiers secteurs et avec ma crevaison, j'étais vraiment, vraiment loin, donc j'ai pas pu faire la course.
Voilà, Christophe Laporte, 25e à 6 minutes 28 de Mathieu Van Der Poel. Voilà. Alors, comment vous jugez cette performance? Il a des circonstances.
Moi, je lui mets la moyenne.
On
met la note ou pas?
Ouais, vas-y.
Allez, moi, j'ai mis 5,5
sur 10. 5,5
sur 10.
Un peu plus que la moyenne, carrément. Non, je lui mets 5.
Ah oui, il est quand même premier français.
Premier français.
Voilà.
Et il revient d'une opération.
Il revient d'une opération. Il crève dans le premier secteur.
Plus mauvais mauvais résultat du meilleur français depuis Marc Sarraud, 26e en 2018. Sinon, ouais. On avait tout le temps fait des top 10 depuis.
Ouais. Cyril, tu lui mets la moyenne ou non à la porte?
Moi, je lui mets la moyenne parce qu'il y a Paris-Roubaix. À la limite, est-ce qu'on peut le noter? Ça, c'est encore un autre. J'ai dit 5 sur 10.
Juste la moyenne.
Parce que lui, il fait quand même 5e du Newsblad, 4e à Kurne, 10e d'Estradé. S'il n'est pas malade, il aurait été dans le coup, quoi.
Oui, et puis bon, il y a ça, il y a le fait que bon, il a été malade, donc il a eu cette fameuse grippe intestinale, enfin ce qui a été appelé grippe intestinale, opération, aussi. Enfin intervention chirurgicale au niveau du périnée. Il n'était pas censé s'aligner sur Paris-Roubaix à la base. Finalement, il s'aligne. Il n'est même pas supposé être leader, et d'ailleurs il avait dit ne pas s'attendre à un miracle avant cette course. Il se trouve que Dylan Van Baarle, qui était leader hier, l'ancien vainqueur, a finalement pas pris le départ, et finalement Christophe Laporte se retrouve presque propulsé leader, sachant que Visma sachant que Visma envoie quelqu'un dans l'échappée, qu'il y a les frères Van Dijk qui ont fait une belle course, mais qui ont fait ce qu'ils ont pu. Finalement, Christophe Laporte, il a pas de chance, parce que moi je reste quand même persuadé, il avait l'air d'avoir les jambes, et si jamais il ne crève pas dans le secteur de Trois-Villains-Chic, le secteur numéro 29. Donc, en gros, il a crevé dès le premier kilomètre des 55 kilomètres de pavé. Bon, qu'est-ce que tu veux faire derrière? Et finalement, tu termines 25e, sachant que il a pas vraiment fait le sprint à l'arrivée pour essayer de rentrer dans le top 20. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal pour Christophe Laporte. Je lui jette pas la pierre, en tout cas. Et c'est pour ça que je lui ai mis même un petit peu plus que la moyenne. Et si j'avais été un prof généreux, j'aurais même mis 6 sur 10.
D'accord. Je vais lui mettre 5,5 comme toi, un peu plus que la moyenne, parce qu'effectivement, il a des circonstances atténuantes. Peut mieux faire, mais encourageant, on verra bien ce que ça donnera dans les semaines à venir.
Tu donnes des petites appréciations comme ça.
Voilà.
Proviseur.
Ça me rappelle quand j'ai des cours. On descend un peu plus loin dans le classement, avec la 30e place d'un garçon qu'on attendait un peu moins. Thomas Gachignard, qui termine à 7 minutes, donc 32 secondes derrière la porte. Il est le deuxième français, pas vraiment celui qu'on attendait le plus, mais il signe une saison flandrienne intéressante. Il avait également terminé 10e d'à travers la Flandre. Quelle note pour le jeune coureur de Total Energy? Complètement inattendu à cette place-là, en tous les cas, place de deuxième français.
5,5 aussi.
5,5?
J'ai pas envie de donner plus qu'à la porte.
C'est ça.
Il termine après.
Oui, mais bon,
il termine derrière lui.
C'est pas le leader de la formation.
Ah oui, mais attends, l'école, c'est égalitaire, hein, Christophe.
Moi, je lui mets 6 parce que je l'attendais pas, celui-là.
Moi, je lui mets 5. Je garde la même note que Christophe Laporte, la même logique.
Cyril.
Non, moi je lui mets 4 parce que.
Il est dur en affaire.
Il est dur en affaire.
Mais non, mais regardez non, mais
les autres, tu leur mets 0 quoi.
Il y en a peut-être à qui je vais mettre 0. Je pense à Martinez par exemple, qui n'était pas présent. je lui mets 4 parce que il fait une belle course. Qu'est-ce qu'il a eu comme problème ou pas de problème?
Tu mettrais combien à Joshua Tarling, l'anglais de la formation
qui s'est fait
dégager
0,5 pour la présentation.
Écoutez, moi je l'envoie au lancer du disque.
On rappelle qu'il s'accrochait à une voiture et qu'il a donc été exclu Manu Militari par la direction de course.
Oui, mais quelle voiture,
voiture de commissaire, moi j'ai vu, non? C'est pas une voiture.
Ah non, il me semblait que c'était la voiture de son directeur sportif, non?
C'est la voiture de son directeur sportif.
Donc c'est. Mais bon, c'était sous l'œil de la caméra.
Sous, hein. Si le coureur est mis hors course, je suis désolé. Le directeur sportif, il fait la même faute. Il doit être mis hors course. Le jour où vous mettrez sur un truc comme ça le directeur sportif hors course, il n'y a plus de coureur qui s'accroche. Hein.
Ouais. C'est vrai.
C'est sûr. Alors, Gachignard qui fait donc mieux que tous les autres. Sénéchal, 60e. Turgis, 54e. Sarro, 46e. C'est des garçons qui, les années précédentes, faisaient des top 10 ou presque. C'est pas avec des etc. qu'on peut espérer grand-chose sur Paris-Roubaix et sur les classiques flandriennes. Quelle note globale vous donnez à la prestation des coureurs français ? Là, vous avez le droit d'être sévère.
Sur Paris-Roubaix ? On reste sur ça ?
Ouais.
Un 4. 2.
2.
Non, moi sur Sénéchal, pardon.
Non, mais sur les Français, Cyril, pas sur Sénéchal.
Oui, parce que moi, Sénéchal, pour moi, il n'est pas notable.
Mais non,
je considère qu'il y a une faute de management l'amener là.
Oui, mais bon, il n'est pas notable, mais s'il n'est pas là, ça fait baisser la moyenne, ça fait baisser le niveau des Français aussi, parce qu'il est quoi? Il est quatrième Français, si je comprends bien, hier, d'après le classement que tu viens de nous dire, Christophe, donc.
Oui, mais je pense qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, pour la notation.
Non, mais pardon, Cyril, c'est un petit peu le principe. Mais pardon, mais moi, je mets cette note-là. Alors évidemment, c'est un petit peu pour te provoquer, Cyril, que je mets 2 sur 10. Mais moi, je suis très déçu. Déçu parce que je trouve aujourd'hui qu'il n'y a pas de Français qui soit, à part Christophe Laporte, qui malheureusement pour lui, donc pour les circonstances qu'on a expliquées il y a quelques instants, n'a pas pu rivaliser, en tout cas ne serait-ce que pour faire un top 10. On n'a pas de Français aujourd'hui comme un Laurens Pitty par exemple, qui fait son premier Paris-Roubaix, qui soit capable de terminer 7e. Je suis désolé, Laurens Pitty, il n'est pas, c'est pas un vieux de la vieille. Il arrive tout juste, il fait son premier Paris-Roubaix, il se prend une énorme rèche, il se relève et il va au bout. Alors je dis pas que les Français sont pas durs au mal, c'est pas le problème, mais j'aimerais bien quand même qu'on ait des Français qui soient capables de le gagner. Moi, j'ai pas vu un seul Français capable de gagner Paris-Roubaix depuis Turgot, peut-être. C'était quand, quelle année, 2006, Turgot, quand il avait fait deuxième. Non, mais voilà, les Français ils sont pas au niveau sur Paris-Roubaix. Moi ça me gêne personnellement.
Est-ce qu'on en a dans le peloton les professionnels, spécialistes des pavés, on n'en a pas beaucoup.
Mais on a petit, à part Laporte. On a petit Laporte Sénéchal, mais bon, c'est des garçons qui plafonnent. Desmar, on nous a fait croire pendant des années qu'il pouvait gagner Paris-Roubaix, mais j'aime beaucoup Arnaud Desmar.
Je salue
tout son palmarès sur le reste des courses, mais je pense que sur Paris-Roubaix, il aurait difficilement pu rivaliser. Je trouve qu'on n'a pas de Français capable aujourd'hui de gagner Paris-Roubaix.
Il n'y a aucun Français. Mais on le sait, au Tour des Flandres, le premier Français, il fait combien, 19 ou 20e aussi?
On n'est pas dans la course. 16e, c'est Valentin Madouas.
Mais on n'est pas dans la course. Et on n'a pas aujourd'hui de Français capables d'y aller. Turgis, si mes souvenirs sont exacts, il devait être dans la chute de Van Aert aussi. Hein. Quand il y a eu la grosse gamelle. Turgis, il a des qualités pour être là, mais vous avez des coureurs là qui peuvent pas être prêts. On parlait de Sénéchal tout à l'heure. Turgis, il peut pas être dans le coup. En plus, il est dans une équipe qui peut même pas participer à toutes les grandes épreuves au World Tour et à tous les grands monuments. Dans la tête, ça doit être difficile à vivre aussi quand on voit les performances qu'a réalisées Turgis. Mais on a personne, on est à notre place.
Sa saison n'est pas exceptionnelle quand même. Anthony, il ne finit pas Paris-Nice, 18e Grand Prix de Denain, 112e de Classique Bruges, 37e de Grand Vevelgem, il finit pas à travers la Flandre. Effectivement, il était dans la gamelle avec Van Aert. Il n'est pas pour l'instant à son niveau, au niveau espéré en tout cas.
Ouais, il avait fait deuxième sur Milan-San Remo il y a quelques années derrière Mohoric, mais pour aller dans le sens d'Arnaud, surtout. On voit pas d'envie, en fait. On a parlé de beaucoup de Français, il y en a beaucoup qui ont été pris déjà dès les bordures, même pas sur les pavés. Dès les coups de bordure initiés par les Alpecin, ils étaient mal placés.
Il y avait seulement Page et La Brosse.
Il y en avait 30, finalement, qui se sont retrouvés devant.
Mais justement.
Ça a fait vite le ménage, quand même.
Exactement,
hein.
Mais justement, mais si t'as envie. Si t'as des envies sur cette
course, c'est quand même un peu bête qu'un Adrien Petit, qu'un coureur comme
tu te places parmi les premiers,
ne soit pas dans dans ce groupe-là. Bon, bref.
Bon, messieurs, et juste voilà. pour vous oui. rassurer, sachez que les Italiens ont fait moins bien que nous. Le premier Italien, c'est Andrea Pasqualone, il est 50e.
Les Italiens, ils n'ont pas attendu, ils n'attendent pas depuis 97 pour gagner Paris.
Et les Espagnols, le premier Espagnol, Ivan Garcia Cortina, est 63e.
Oui, bon, après.
Ils ont été dans la première chute avant les pavés. Hein.
Ouais. Et c'est pas,
comme Tim Merlier.
C'est pas des pays qui sont réputés dominants sur Paris-Roubaix.
Ah, l'Italie avait Mozzato qui
aurait pu faire l'Italie avec comment il s'appelle l'édition Covid en 2021 qui s'est arrêtée.
C'est incroyable. Colbrelli.
Voilà, Sonny Colbrelli avait gagné Paris-Roubaix. Mais pour ce qui est de l'Espagne, je crois que leur meilleur résultat, ça doit être je crois que c'est Imanol Arviti sur Paris-Roubaix. Enfin, pour ce qui est de l'Espagne. Non, c'est pas pour ce qui est de l'Espagne. C'est pour ce qui est de l'équipe Movistar, qui est donc sous différentes appellations dans le peloton depuis les années 80. Le meilleur résultat, c'est une 9e place sur Paris-Roubaix. C'est Imanol Arviti. Mais bon, voilà, c'est pas la. C'est pas la culture de cette équipe, effectivement.
Très bien, on va quitter, on va rester dans notre baromètre, mais on va aller dans les autres courses. Les Français qui font un peu mieux, notamment sur le Tour du Pays Basque, où Romain Grégoire a signé la semaine dernière sa première victoire en World Tour en remportant la 5e étape au sprint. Quelle note vous donnez à Romain sur cette course ?
8 sur 10.
À 8 sur 10.
Non, 7,5.
Oui, parce
qu'il fait une dernière étape.
La dernière étape, il est dans le dur quand même. Hein.
C'est ça. Moi, je lui mets 7 et c'est pour ça. Il a été dans le dur. Il y a la première étape aussi. Il est très bien placé. Il chute sur un virage alors qu'il est emmené par un coéquipier.
Oui, tout à fait. Il est placé pour la gagner. Hein.
Voilà, c'est ça. Après, il gagne ensuite. Mais voilà, un bon 7 pour Romain Grégoire.
Cyril ?
Moi, je lui mettrais 8 parce qu'il faut tenir compte de la gamelle qu'il a eue. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il est emmené, il est en deuxième position. On aperçoit déjà la flamme rouge, une arrivée qui pouvait lui convenir. Il pouvait aller chercher deux étapes là-bas. Bon, fallait pas tomber non plus, c'est une chose. Mais non, je pense que il fait 13 de Tirreno, c'est quand même pas mal. 2 du Fonardèche, derrière Ayuso. Non, je pense qu'on peut lui mettre 8, oui.
Moi, j'espère surtout, et c'est pour ça que je lui mets une bonne note, qu'il va rester chez Groupama FDJ, parce que
j'allais dire.
Ah bah oui,
au moins, lui, il reste.
Parce que là, c'est la fuite des talents.
Hémorragie terrible.
Vous pouvez aller lire sur.
Entre nous, c'est pour ça qu'on lui met une bonne note. Hein,
oui, aussi. aussi non, mais parce que. Non, mais attends, c'est quand même pas rien de gagner une étape sur le Tour du Pays Basque. Enfin, je veux dire, même handicapé de ses principaux leaders, que sont Roglic, Vingegaard et Evenepoel qui ont chuté, c'est quand même pas rien d'aller gagner sur le Tour du Pays Basque.
Grégoire, c'est donc la relève de la Groupama FDJ, parce que Laurence Pitty va partir.
A priori.
Et ce sera également le cas de Lenny Martinez à partir de la saison prochaine. Il a déjà signé.
Il a déjà signé Bahrain Victorious. C'est une info qu'on vous donne sur le site rmcsport.fr. Il a déjà signé, effectivement, même très tôt. Il a trouvé un accord avec l'équipe Bahrain Victorious. Donc, ce qui était une rumeur lancée par la Gazzetta dello Sport cet hiver, en fait, est une information
D'accord.
actée.
Tour du Pays Basque, marqué également par le succès lors de la deuxième étape de Paul Lapeyra, le jeune sprinter de Decathlon à G2R, la mondiale. Son troisième succès de l'année, son premier en World Tour. Là aussi, une belle note, messieurs, j'espère, pour celui qui représente la relève du sprint français.
Je le noterai la semaine prochaine si jamais il fait une belle place sur l'Amstel Gold Race. Voilà.
Qu'est-ce qu'il est dur.
Non, mais toi,
ça va pas.
On te note sur tes résultats, pas sur ce que tu vas faire
sur l'avenir.
Après.
J'attends de voir.
Toi, t'attends de voir avant de. Oui, bon, enfin, bref.
On lui met un 8 quand même.
Ah ouais, on lui met au moins la
non noté.
Non noté. Et il a rendu son travail, quoi. Il a rendu sa copie. Non, mais je rêve.
Non, mais si, c'est génial. C'est génial.
Il fait un très bon début de saison. Il avait fait un doublé sur la Classique Loire Atlantique et Cholet Aglotour le même week-end. Là, il gagne une étape. Il est très fort. Après, tu parles d'un sprinter, c'est un sprinter un petit peu particulier. Hein. Je pense pas qu'il gagnera des sprints.
C'est pas un sprinter.
Voilà, c'est ça. Et c'est un sprinter puncher. Mmh.
C'est pour ça que je dis j'aimerais bien le voir sur l'Amstel Gold Race, ce qu'il a dans les pattes. Puisqu'il sera aligné sur l'Amstel Gold Race.
Je pense que ça sera peut-être un petit peu court encore.
Je te dis pas qu'il. Oui, c'est une longue course, hein, l'Amstel.
Mmh. Ouais. Thierry, tu lui mets quoi comme note, toi?
Ben moi, pour ces trois victoires, moi je lui mets 8, sachant qu'effectivement c'est pas un grand sprinter. Il va vite, un petit peu comme Cosnefroy ou comme Axel Laurence, donc il peut gagner des courses à un certain niveau qui peuvent arriver en groupe ou en petit groupe, mais c'est pas un vrai sprinter, faut pas lui donner une étiquette de sprinter. Très bien. Mais 8, moi, ça me va très bien. Et...
Tu voulais donner une autre note, je crois, Cyril. Tu voulais noter quelqu'un qui est en dehors du baromètre, mais que tu voulais quand même noter, non ? C'est ça, tout à l'heure ?
Il y avait Axel Laurence,
quand
même.
Oui, Axel Laurence. Mais ça remonte à la semaine d'après. On n'avait pas encore ouvert le baromètre. Mais effectivement, il avait fait du bon travail, lui aussi, pour son équipier. Axel Laurence, dont on avait parlé déjà dans ce podcast. Voilà pour notre baromètre des Français. On ne notera pas, en revanche, David Gaudu, contraint à l'abandon sur le Tour du Pays Basque après une énième chute. David qui, en revanche, devrait s'aligner, si tout va bien, sur l'Amstel Gold Race la semaine prochaine, la première des Ardennaises. Mais il ne sera pas seul, notre Frenchie. Et non, il y aura du beau monde, puisque Mathieu Van Der Poel a décidé de s'aligner au départ de sa classique néerlandaise. C'était la première grande course d'un jour qu'il avait remportée.
Ah,
il y a,
ça va être dur à gagner, alors. Hein.
Est-ce que vous le voyez poursuivre sur sa lancée et remporter un troisième succès d'envergure en trois semaines, et pourquoi pas un quatrième la semaine d'après avec Dej Bastaniel, quoi. Est-ce qu'il va en laisser à la concurrence?
Moi, peut-être. Il y a une chance. C'est que je l'ai entendu dans une interview hier où il disait qu'on va faire la fête.
Oui, il a dit ça, effectivement.
Peut-être que s'ils font trop la fête, peut-être qu'il aura mal aux jambes, je sais pas.
Après,
moi.
Il va rentrer en Espagne.
Non, il reste.
Ça dépend ce qu'il appelle faire la fête.
Il reste en Belgique, là. Il reste au frais, là. Il reste au frais jusqu'à l'Amstel. Moi, j'ai envie d'y croire. Enfin, je suis pas là pour y croire ou pas y croire, mais envie ou ne pas avoir envie. Mais je pense oui qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut non seulement remporter l'Amstel Gold Race, mais également gagner Liège-Bastogne-Liège.
Surtout qu'il n'y a pas grand monde. Je regarde un petit peu le plateau. Bon, pas grand monde. Évidemment, je me comprends. Mais il y a Ayuso, il y a Skelmose, il y a Mohoric, il y a Bilbao, il y a Jorgensen. Normalement, Mathieu Van Der Poel est largement capable de s'imposer face à ces hommes-là.
Ouais. Ok, donc vous en faites le favori pour la victoire dimanche prochain. Cyril, t'en fais ton favori une nouvelle fois ?
À partir du moment où il est au départ avec la confiance qu'il a, il a même pas besoin. Enfin, je veux dire, il a même pas besoin de prendre le départ en disant il faut que je mette en place des stratégies. Il a juste à laisser faire. C'est-à-dire qu'il a pas la pression de la victoire, l'envie de gagner, oui, mais il est même pas obligé de faire la course et d'attendre que les choses se passent. Les autres équipes ont besoin de gagner, ouais. Pas son équipe et pas lui.
On aura l'occasion de parler la semaine prochaine de Liège-Bastogne-Liège, parce que là, on se dirige sans doute vers un affrontement royal entre Pogacar et Van Der Poel, qui seront alignés tous les deux. On a hâte de voir ça. Un tout petit mot quand même de l'actualité de la semaine passée, avec évidemment cette terrible chute dans le Tour du Pays Basque qui a mis à terre un grand nombre des fantastiques du vélo, on rappelle.
Les trois qui étaient alignés.
Evenepoel, Roglic. Alors Roglic, ça va, c'est pas trop sérieux, même s'il est tombé à deux reprises. C'est
aucune fracture.
Voilà, aucune fracture. Roglic. Donc il devrait se remettre. Mais enfin, il faut qu'il arrête de faire du vélo, en fait. Il faut qu'il en fasse juste de temps en temps, parce qu'il tombe à chaque fois.
Il est annoncé en plus sur la Flèche et sur Liège.
Hein, ouais. Evenepoel, lui, par contre, forfait pour Liège. Omoplate et clavicule. Et puis surtout, Jonas Vingegaard, évidemment, qui était le grandissime favori du prochain Tour de France, et qui n'est même pas sûr de participer à ce tour. Les blessures sont très sérieuses. Qu'est-ce qu'on en dit, Johan? Quelles sont les dernières rumeurs, les dernières infos le concernant?
Déjà, on en dit qu'il est toujours à l'hôpital, Jonas Vingegaard, et ça en dit beaucoup sur son état de santé. Il y a eu des examens complémentaires qui ont révélé une contusion pulmonaire et un pneumothorax, en plus donc des fractures de la clavicule et de plusieurs côtes qui avaient été décelées lors de sa chute. D'ailleurs, c'est la femme du Danois qui tient au courant son équipe, la Visma, de son évolution de santé. L'équipe ne peut pas ou ne veut pas communiquer sur l'état de santé de Vingegaard, et ça se comprend. Ce que l'on sait, c'est que ça va de mieux en mieux quand même pour Vingegaard, mais on estime
de mieux en mieux.
Il
peut respirer,
il passe de bonne nuit, il peut respirer, voilà, ça il va aller mieux, Vingegaard, mais on estime son absence quand même à 10 semaines. Je rappelle
donc
que
ça laisserait 2 semaines pour se préparer pour le tour, en
exactement compte. Et je rappelle que Julien Alaphilippe, qui avait eu un pneumothorax
en compétition.
Julien Alaphilippe, qui avait eu un pneumothorax, des côtes fracturées et l'omoplate aussi, il avait loupé 2 mois de compétition.
Oui, mais il avait repris au bout de 3 semaines d'entraînement.
Voilà, exactement. Ouais. Mais est-ce que ça va suffire?
Moi, je pense que Vingegaard j'en sais rien, mais je veux croire qu'il soit sur le Tour de France.
Tu espères.
Non, mais après, c'est sûr qu'il sera moins compétitif. On l'a vu l'an passé avec Pogacar, hein, qui s'était cassé la main sur Liège-Bastogne-Liège, justement. Il avait été peut-être un petit peu moins... On ne saura jamais, mais manifestement, il avait été un petit peu moins compétitif. Je veux croire qu'il sera là malgré tout. Voilà. Il y a quand même 3 mois hein, pour se remettre.
12 semaines, ouais. 12 semaines.
3 mois.
Ça fait 3 mois. Mais si tu comptes bien.
Le problème, c'est que je ne pense pas qu'il puisse être au départ du Tour. Non pas que physiquement il pourrait pas prendre le départ, ses blessures ayant été soignées, mais je le vois pas partir au départ du Tour à 50% de son potentiel.
Oui,
la deuxième étape avec dans la côte de Saint-Lucas, il explose. Il va pas prendre le départ du Tour pour faire 25e. Il ne peut partir que s'il est supposé s'aligner
derrière sur le Tour d'Espagne. Il faut quand même qu'il ait un petit peu de compétition dans les jambes.
Oui, mais il en aura.
All-in sur le Tour d'Espagne.
Entre le Tour de France et le Tour d'Espagne, ben, il y a déjà les Jeux. Enfin bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde pour les Jeux aux Pays-Bas.
Ouais, puis c'est déjà au Danemark, mais c'est pas sa priorité hein, pour Vingegaard qui s'est déjà exprimé. Sur...
Ah ben non, il voulait faire que les grands tours. Il voulait faire que les grands tours.
Ouais, il aura assez de courses pour se préparer. Vous savez, maintenant les coureurs sont capables de rester 3 mois sans courir, de revenir et de gagner. Il y a des moyens maintenant de maîtriser toutes les techniques d'entraînement et d'arriver en très très bonnes conditions au départ des objectifs. Mais l'accident qu'il a eu n'est pas bénin et moi je pense que le Tour de France, il ne peut pas le faire. Le Tour d'Espagne, oui.
Eh bien, nous verrons, on prendra de ces nouvelles régulièrement. Évidemment, on va envoyer notre fin limier, Johan, aller enquêter sur l'état de santé de Johan.
Tu vas devenir notre médecin, en fait, de Grand Plateau.
Bah, oui, bien sûr.
Je crois que tu vas avoir ta petite rubrique médicale toutes les semaines. Là.
On va recruter un médecin pour savoir dans quel état on est.
On espère qu'on va avoir le salaire avec.
Oui. Mais tu seras un médecin sans cabinet, uniquement un médecin médiatique.
Un médecin volant. Merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. L'Amstel Gold Race, c'est donc dimanche prochain. Tu seras aux Pays-Bas.
Et peut-être que Paul Lapeyra me permettra de lui mettre enfin une note la semaine prochaine.
Nous verrons ça. Bonne semaine à tous et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Ciao, ciao.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.